Digue Radio, Digue Radio, la radio qui vous écoute.
Il fête ses 100 ans le 24 juin. Il est auteur, critique d'art et d'architecture, historien, romancier et bien sûr fontenaisien. Michel Ragon sera à l'honneur toute l'année 2024 sur notre territoire. Pour en parler, nous recevons Marie-Gabrielle Girouard, membre de l'association 1001 pages, et Kylian, chroniqueur stagiaire pour Digue Radio Sud-Vendée. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Marie-Gabrielle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour démarrer, l'association 1001 pages, qu'est-ce que c'est cette association ?
C'est une association qui gère la bibliothèque municipale de Saint-Michel-le-Clos. Ce sont des amis qui s'occupent de cette bibliothèque et qui ont accepté de mettre à la disposition du centenaire, du projet du centenaire de Michel Ragon, leur association 1001 pages, fort bien nommée pour un tel projet. Cette opération essentiellement autour de la littérature, autour de, d'un esprit brillant qu'était Michel Ragon. Et donc cette association est porteuse du centenaire de Michel Ragon.
Pour les auditeurs qui ne savent pas qui est ce talentueux monsieur, pouvez-vous nous parler un peu de lui ?
Michel Ragon a passé ses 14 premières années à Fontenay-le-Comte. Il est issu d'un milieu populaire assez pauvre, pauvre intellectuellement et pauvre matériellement. Il a grandi dans une maison grand-maternelle. Ses grands-parents maternels l'ont suivi pendant ses 14 premières années. Et dans ses romans, il raconte le lien très très puissant qu'il avait avec sa grand-mère, qui lui a appris à lire. Dans un bouquin très improbable qui était planqué dans l'armoire entre les piles de draps. C'était les Fables de La Fontaine et les Guerres de Vendée. Un enfant de 5 ans apprend à lire là-dedans. Très très tôt, cet enfant est intéressé par ce qui est intellectuel. Il veut lire. Il n'a de cesse de trouver un support où il y a de l'écriture. Il va aller en classe chez les frères de l'école chrétienne, non loin de sa demeure, sa petite maison dans la rue des Orfèvres, au numéro 8 de la rue des Orfèvres. Et puis, à 12 ans, il obtient le certificat d'études primaires. Il faut travailler. Il faut travailler parce que sa mère ignorait qu'il pouvait faire des études en tant que pupille de la nation. Il était devenu orphelin à l'âge de 8 ans. Son père, sous-officier de la coloniale, donc, était mort alcoolique et tuberculeux. Et donc, il aurait très bien pu faire des études aux frais de l'État, mais sa mère l'ignorait, ce qui est également une marque de la pauvreté, cela. Donc, elle l'emmène à Nantes dans l'intention de lui faire trouver des petits boulots. En fait, à Nantes, c'est très très compliqué pour lui. Il a une adolescence prolétaire, c'est un enfant esclave. Il est à la botte de tous les adultes qui lui donnent une taloche s'il n'est pas exactement au moment même où on a besoin de lui. On l'appelle saute-ruisseau, vous savez, c'est le terme qui désigne les petits garçons de course qui sont réellement toujours malmenés. Dans une ville où il ne fait pas souvent beau, où il apprend la pauvreté, là il comprend qu'il est pauvre. Quand il porte des colis, des courriers, dans notamment les maisons bourgeoises, et qu'il pousse la porte d'entrée, on lui dit « Non, non, petit gars, tu fais le tour, tu vas passer par le passage de service, tu vas salir la maison. » Et là, il se rend compte que « Ah oui, il y a deux sociétés, je ne suis pas dans la plus facile. »
Et qu'est-ce qui va faire le déclic, qui va passer, pas du côté bourgeois, mais qui va avoir un déclic pour cette littérature et pour ces livres ?
Et ben précisément, il était déjà très intéressé par l'écriture et la lecture. Et dans sa grande solitude nantaise, puisqu'il ne voyait que sa maman, et il n'avait pas de copains encore, il arrive à Nantes à 14 ans. Hein, et donc, c'est à la période de l'occupation allemande. Sa maman obtient quelques petits travaux, et notamment elle devient concierge dans les maisons bourgeoises qui sont laissées par leurs propriétaires à cause de la présence allemande. Et pour éviter que leur maison soit réquisitionnée ou squattée, elle dit, les familles demandent à Madame Ragon de garder. Et à ce moment-là, il entre dans des intérieurs dont il ne soupçonnait même pas que ça existait. Des intérieurs avec des napperons partout, avec des tapisseries merveilleuses et surtout, des bibliothèques gigantesques. Il n'en avait jamais tant vu. Et là, eh bien, il va passer des nuits à lire. Alors, à la manière d'un autodidacte, il va de Aristote à Zola, comme font tous ceux qui n'ont pas de structure intellectuelle, mais il apprend. Dans cette période de 5 ans à Nantes, il y a un historien qui a découvert d'ailleurs, parce qu'il notait tout ce qu'il disait. Et on a retrouvé le petit carnet de son adolescence où, en quelques 2-3 ans, il avait lu 1000 titres. Il partageait le goût de la lecture avec sa mère. Bon, bien sûr, il n'avait pas la même lecture, les mêmes titres. Elle lisait plutôt Pierre Loti, également... je crois que c'est Pierre l'Ermite également. Enfin, en tous les cas, une lecture pour demoiselles. Et lui, à 14 ans, il lisait déjà Jean-Jacques Rousseau. Voilà, donc...
Il n'était pas sur les mêmes auteurs de livres.
C'est ça. Et il a des très bons souvenirs avec sa mère de ses lectures dans le Jardin des Plantes, au pied de la statue de Jules Verne. Et puis ensuite, il va rejoindre Paris. Il en a marre, il ne veut pas rester avec sa mère. Il faut qu'il s'en aille. Et comme il avait déjà commencé à correspondre avec certains écrivains qu'il lisait, ça, c'est l'audace de l'autodidacte également. Ben, il file à Paris et il va sonner à la porte de l'édition Grasset, où là, il rencontre un personnage extraordinaire qui est totalement méconnu désormais, mais qui était un très, très, très grand auteur connu de tous. Il s'appelait Henri Poulaille, spécialiste de littérature prolétarienne. Alors là, ça convenait parfaitement à ce jeune provincial, qui va écrire... Les Cahiers du Peuple, ou l'histoire de la littérature ouvrière à l'âge de 23 ans, c'est son premier bouquin. Et à Paris, il va il se fera des copains. Il a déjà une vingtaine d'années. Il va rencontrer, parce qu'il fait beaucoup les galeries, il est très intéressé par les images, par les peintures. Il faut bien considérer d'où il vient. Nous sommes à ce moment-là dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'images, où il n'y a pas la télé, où il n'y a pas tout ce que nous connaissons dans notre quotidien. Et il est très intéressé par l'art. Et il rentre dans des galeries, on le remarque, parce qu'il a vraiment une allure très atypique, pas du tout parisien, avec sa veste de velours. Et à ce moment-là, il rencontre des jeunes gens qui sont des peintres totalement méconnus. Et ils se font, ils font amitié, ils se lient, ils se découvrent, ils partagent énormément. Et Michel Ragon, qui est un garçon qui pense vite, qui s'exprime très, très bien. Il parle peu, mais quand il parle, évidemment, il a un esprit tellement fin qu'il passionne tous ceux qui le rencontrent. Et il commence à écrire à la demande des peintres. « Dis donc, toi, mon petit gars, tu ne saurais pas faire un article sur mon tableau, là ?» Et puis, peu à peu, ses écrits sont tellement brillants, tellement reconnus, qu'il sera introduit dans de nombreuses revues d'art. Il va même participer à la création d'une revue d'art contemporain, la plus célèbre, je pense, qui s'appelle Simèze, qui existe encore aujourd'hui. Il aura des liens très, très, très forts avec ce monde. Alors aujourd'hui, on les connaît peu, hormis Soulage et peut-être Hartung. Mais si je vous dis le nom de Atlan, merveilleux Atlan, extraordinaire, ses couleurs, ses peintures, cette vivacité. Si je vous dis Schneider, et le mouvement Cobra qui a eu que 3 ans d'existence, c'était une alliance entre des artistes qui venaient du Danemark, de Belgique et de France. Et qui, je dis des bêtises, Cobra, c'est Copenhague, Bruxelles et Amsterdam.
Amsterdam.
Donc il n'y a pas la France, non. Et donc le Cobra, c'est des artistes qui ont révolutionné complètement la peinture. Ça s'appelle de l'art abstrait.
Et il arrivait, Michel Ragon, à s'imprégner de ces personnes-là ou à se servir, entre guillemets.
Il était totalement séduit.
Séduit.
Et il rentrait facilement. C'était vraiment son goût. En fait, tout ce qui est moderne l'intéresse. Que ce soit en architecture, que ce soit en art, l'art abstrait, c'était l'art contemporain de ce temps-là. Ce qui est non figuratif lui parle beaucoup. Et il est très très visionnaire. Il est capable d'écrire. Alors il a produit un ouvrage qui s'appelle Dictionnaire de l'art vivant, 1950, l'an 2000. Et c'est vraiment un dictionnaire. Et dans le développement de cet ouvrage, il explique l'intention, ou tout au moins ce que les artistes font sans franchement même en avoir conscience. Il fait le rapport entre les images, qui ne veulent rien dire, c'est de l'abstrait, et les photos. Des éléments microscopiques que la technique photographique d'aujourd'hui permet. Et on fait le rapprochement entre des productions des années 50-60 qui ne veulent rien dire, mais qui sont belles ou pas, mais en tous les cas qui évoquent, qui provoquent une émotion. Et puis ces images qui montrent ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Et vraiment, c'est fabuleux de penser à ce lien que même lui ne savait pas. Mais quand il en écrivait, il suffit de... Quand Michel Ragon, il écrit vraiment très accessible. C'est un pédagogue. Et même l'art abstrait, il le rend accessible.
Accessible à tout le monde. Et après, il passe sur sa deuxième jeunesse, on va dire, avec tous les livres que j'ai cités tout à l'heure.
Alors précisément, c'est après ces années, enfin, ces premières années parisiennes, sa mère meurt. On est là en 1976. Il a toujours correspondu avec sa mère, hein, entre Fontenay, Paris, Nantes et Paris. Il a toujours gardé, c'était un fils unique, il fallait bien qu'il s'occupe de sa mère. Elle allait tous les ans passer un séjour de quelques jours à Paris, bien sûr. Et puis, il avait un courrier permanent avec sa mère. Et quand sa mère meurt, il rentre pour s'occuper du deuil, enfin du décès. Et il découvre, parmi les 1000 choses que sa mère avait stockées, une boîte à chaussures dans laquelle il y avait 1500 lettres qu'il avait écrites à sa mère. C'est quasiment la chronique de sa vie. Et il découvre également quantité d'autres choses qui vont réveiller sa mémoire. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va... écrire sur l'histoire familiale. Et ses premiers romans, donc L'accent de ma mère et Ma sœur aux yeux d'Asie, sont des romans autobiographiques où il raconte lui-même, sa mère, ses oncles, ses tantes, sa famille vendéenne, notamment son père Ragon, Aristide Ragon, était d'origine de Saint-Martin-des-Fontaines, où existe encore toute la cousinade. C'est une véritable tribu. Ils s'aiment beaucoup. Ils en parlent encore aujourd'hui beaucoup. Et ensuite, il va continuer à écrire en allant encore plus loin dans l'histoire de sa famille, donc de la Vendée. Et il va produire des épopées fantastiques que sont Les Mouchoirs Rouges de Cholet, La Louve de Mervent, qui racontent les guerres de Vendée et les survivants des colonnes infernales que sont les aïeux de tous les Vendéens.
Oui, on les a commémorés récemment. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'était le 240e des colonnes infernales, en 1794, si je me trompe
13,
pas.
Oui.
13, c'est ça. Vous proposez du coup toute l'année des conférences, des expositions. Il y en a qui sont prévues au département à La Roche-sur-Yon. Il y en a aussi à l'usine étoile bien connue de Fontenay. Expliquez-nous ce que vous allez nous proposer sur le territoire pendant un an.
Alors effectivement, la bibliothèque de Vendée à l'hôtel du département a proposé une fabuleuse exposition qui est présentée depuis ces jours-ci jusqu'au 5 avril. Et puis effectivement à Fontenay, avec mes amis de 1001 pages, nous avons décidé de mettre à l'honneur ce personnage extraordinaire qui est un parmi de tant et tant d'intellectuels. Mais celui-ci, il est de chez nous, donc vraiment en faisant le connaître.
Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques dates ou quelques situations que vous avez proposées ?
Il y a déjà le tour des bibliothèques. Je serai prochainement à Xanton, à Bourneau, à Breuil-Marais. Tout au long de l'année, il y a une intervention, enfin une conférence qui s'intitule « Michel Ragon au fil de son œuvre ». C'est tout simplement une présentation biographique du personnage dans les bibliothèques autour de Fontenay. Et puis, il y a aussi des journalistes, conservateurs, spécialistes, historiens, de Michel Ragon, souvent des anciens amis, des personnes qui l'ont connu de vivant et qui savent en parler et qui viendront faire des présentations, des conférences. C'est une fois par mois, donc avec une chance inouïe, le propriétaire de l'usine étoile a mis à notre disposition le cœur de l'étoile pour faire les conférences en hommage à Michel Ragon. À ceci s'ajouteront un certain nombre de lectures, des comédiennes, des artistes, des lectrices. Non, il y a aussi un lecteur qui feront des lectures extraites, donc ce seront quelques pages, des titres vendéens qui seront présentés dans divers lieux. Alors le document qui s'intitule « Il aurait 100 ans » 2024 sera imprimé. Là, dans deux semaines, il sera disponible. Nous allons le distribuer le plus largement possible pour que chacun puisse trouver les dates et les thèmes différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les rendez-vous sont nombreux. Hein. Il y a une vingtaine de dates à Fontenay-le-Comte. Et chaque date présentera une facette différente de Michel Ragon, qui est vraiment extrêmement protéiforme, qui est d'une telle richesse intellectuelle, historien de l'architecture et de l'urbanisme, critique d'art et de l'architecture, romancier, bien sûr. Et avant les romans vendiens, il en avait déjà fait beaucoup, qui sont un peu passés dans l'oubli, mais qui sont aussi très, très intéressants.
Et donc, ça va être une sorte de série, des épisodes à chaque fois qu'on va pouvoir découvrir. On va pouvoir le présenter comme ça.
J'aime bien cette expression, c'est exactement ça. Ce sont des épisodes thématiques différents et complémentaires. Et ce qu'il faut aussi bien évoquer, c'est les rééditions et les éditions des ouvrages. Certains titres de Ragon sont sortis là pour cet anniversaire. Et il y a aussi une biographie et puis la revue 303 qui est produite donc par cette revue culturelle régionale où une dizaine de personnes s'expriment pour parler de celui que l'on fête.
J'ai lu quelque part qu'il portait souvent une chemise rouge, mais pourquoi cette chemise et pas une autre ?
Michel Ragon était un personnage qui avait énormément d'amis. Beaucoup de gens l'aimaient et lui-même était un ami. Il était dans l'empathie, beaucoup de témoignages vont dans ce sens-là et la couleur rouge de sa chemise ou de son pull est un exemple, une illustration de cette amitié qu'il avait pour Alexandre Calder, qui était un grand sculpteur contemporain de son temps, celui qui fait des mobiles. Et Calder portait toujours du rouge. Et à la mort de Calder, qui avait une vingtaine d'années de plus, hein, c'était pas la même génération, Michel Ragon a été très très touché, c'était pour lui une véritable perte. Cet ami comptait beaucoup pour lui et il s'est à partir de ce moment-là avoué au rouge. Et effectivement, dans toutes les vidéos, dans toutes les photos que nous voyons, il y a du rouge sur Michel Ragon.
Lorsqu'il était enfant, il s'ennuyait jusqu'au moment où il se mit à lire. Il se sentait voyager. Pour vous, quels livres de Michel Ragon vous ont fait voyager ?
Lui-même a énormément voyagé. Il est allé en Amérique, enfin il a fait quasiment tous les pays du monde, hein. Et il en a rapporté énormément de souvenirs et de documents, et c'est à partir de ces voyages qu'il a fait notamment les 3 tomes de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Et en lisant, c'est en parcourant ces œuvres-là, eh bien on fait le tour du monde. On fait le tour du monde et alors c'est histoire, mais à partir du 19e siècle jusqu'à son époque. Hein. Et on va à New York, on va en Amérique latine. Il connaissait les architectes qui comptaient dans son temps. Alors voilà, une entrée thématique de voyage, c'est l'architecture. Il a aussi, à un moment donné, il a traversé le monde. Il a rejoint le Japon en cargo. 45 jours de cargo. C'est l'époque où il n'était pas encore très à l'aise. Et bon, il est monté dans un cargo, 2 mois, voire 2 mois et demi de voyage pour rejoindre ce pays extrêmement lointain. Et où il a passé quelques mois. Et quand il raconte son voyage, et quand il raconte son séjour au Japon, où il s'est mêlé avec la population, c'était pas un voyageur, c'était pas un touriste, hein, c'était vraiment quelqu'un qui découvrait les gens. Il a été ami d'ailleurs avec des artistes japonais. Il raconte que tous les guides de voyage sont des menteurs. Il dit le voyage, c'est pas confortable. Vous êtes toujours dans votre zone d'inconfort. On vous dit, vous découvrirez des choses passionnantes. Oui, c'est vrai, mais dans des conditions qui ne sont jamais idéales. Quand il écrit, au retour de son voyage aux États-Unis, il écrit un ouvrage qui s'appelle « Les Américains », où il raconte là-bas, il dénonce à chaque fois qu'il voyage, à chaque fois qu'il écrit « Retour de voyage », il a un esprit critique. Un esprit critique qui met en évidence son esprit libertaire. Et notamment « Les Américains », dans lequel il dénonce précisément ce qui est devenu totalement outrancier aujourd'hui. Mais déjà dans les années 60-70, il avait vu, il avait perçu cette manière de vivre, le mode de vie à l'américaine qu'il dénonce, quoi, cette manière d'être dans le consumérisme, déjà dans les années 70. Qui pensait à cela ? Alors, mais même sans faire les voyages, on découvre son esprit visionnaire. Par exemple, dans un titre très méconnu, c'est La mémoire des vaincus. Alors là, il nous emmène en Russie, la Russie soviétique, où il dénonce, c'est un anticommuniste forcené, enfin forcené, vous couperez ça.
Oui, bien sûr.
C'est un véritable un esprit politique très analytique, et il connaît très très bien, par tous les témoignages qu'il a entendus, il connaît très très bien l'histoire du communisme, l'histoire de ce monde. En tous les cas, l'anarchie, le soviétisme, le communisme, les guerres de libération des pays entre la Russie et l'Espagne. C'est donc l'histoire de la mémoire des vaincus, qui est un ouvrage qui lui a pris 2 ans d'écriture, où il n'a pas bougé de son bureau pendant 2 ans quasiment. Il avait accumulé tellement d'archives, tellement de documents. Et puis si par exemple vous lisez Les Coquelicots sont revenus, un ouvrage qui a été écrit dans les années 90, qui parlait des coquelicots à ce moment-là? Qui avait conscience que les pesticides faisaient disparaître ces petites fleurs qui ne poussent que dans de la terre très saine? Mais lui, il le savait, il l'avait vu. Et dans sa famille fontenaisienne, ou plus précisément Saint-Martin-des-Fontaines, il y a des agriculteurs, ceux de l'agriculture conventionnelle, ceux de l'agriculture d'avant la modernité. Et dans Les Coquelicots sont revenus, il développe complètement l'incohérence de certaines décisions qui sont prises et qui vont faire mourir le monde de l'agriculture. Et il dénonce déjà il y a 30 ans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Voici quelques brides de ce que vous allez pouvoir trouver dans les différentes conférences faites par Gabrielle Giroir toute l'année 2024 sur Michel Ragon. Merci d'être venu au micro d'IG Radio pour présenter les différentes activités, les différentes animations prévues. Le petit bouquin va être à retrouver assez rapidement, soit sur les sites internet, on vous mettra les différents liens dès qu'on les aura pour pouvoir bénéficier et aller surtout écouter et découvrir et questionner aussi Marie-Gabrielle Giroir toute l'année 2024 sur le centenaire de Michel Ragon. Merci.
Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité.
Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel invité du jour. Merci Kylian aussi.
Merci à vous.
Toute la journée, vous écoutez Digradio sur digradio.fr.